7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous parlons des entretiens d'embauche. Situation hautement stressante en général. Pourtant, les professionnels du recrutement sont unanimes. La plupart de ceux qui postulent ne savent pas toujours bien se préparer et se comporter lors des entretiens d'embauche. Bien connaître l'entreprise qui recrute, savoir parler de ses expériences passées, se valoriser sans exagérer, soigner son apparence. Et puis, à l'heure des entretiens à distance aussi, via Skype ou des entretiens en vidéo, il faut se préparer en conséquence. Nous allons répondre à toutes vos questions pendant l'émission avec nos invités. Bonjour Sylvia Di Pasquale.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous êtes rédactrice en chef de Quel Job.com, un des principaux sites de recherche d'emploi en France, sur lequel d'ailleurs on trouve énormément de conseils d'articles en fonction des thématiques pour notamment préparer les entretiens d'embauche. Alors pour tous ceux qui estiment que seul le bras long suffit pour réussir son entretien d'embauche, un patron de PME à Abidjan a des choses à dire et surtout des conseils à donner aux candidats à la lumière de tous les jeunes qu'ils voient défiler, et pas seulement des jeunes d'ailleurs. Fahan Bamba, PDG d'Afrique Émergence, sera également en ligne avec nous. Et quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous pour partager vos expériences, vos interrogations, 33 1 84 22 71 71, et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'oubliez pas de laisser aussi votre numéro de téléphone en message privé. N'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler, sinon vous seriez déçus, le standard serait encombré. Voici quelques messages intéressants. Marco qui est à N'Djamena au Tchad. Que cherchent les recruteurs? Lui, il a l'air assez désespéré. C'est quoi le candidat idéal, nous dit Marco. J'ai passé un très grand nombre d'entretiens d'embauche. Je n'y comprends rien. On nous pose des questions. On nous malmène. Tu sors abattu. Et en général, quand je pense avoir réussi, je n'ai pas le boulot. Et quand c'est l'inverse, je suis embauché. Alors, à quoi servent réellement les entretiens d'embauche? Les tests logiques, professionnels, ne sont-ils pas suffisants pour évaluer la capacité du candidat à produire le travail qu'on attend de lui? Moussa, lui, est à Dakar. Voici ce qu'il poste sur Facebook. Je pense que l'entretien devrait toujours se passer avec un DRH et non un chef d'un département de l'entreprise. Dans le second cas, on se retrouve avec des minettes embauchées. On ne sait pas très bien pourquoi, ou des proches du patron, alors qu'elles n'ont pas le diplôme requis. Voilà, appelez-nous 33 1 84 22 71 71. Vous témoignez, vous posez vos questions en direct et nous dialoguons avec Sylvia Di Pasquale et également un patron de PME dans quelques minutes. Sylvia Di Pasquale, alors à quoi servent les entretiens d'embauche? Que répondre à Marco, qui en perd son latin?
Oh oui, je suis désespérée pour lui.
Enfin, non, mais beaucoup disent la même chose, on n'y comprend rien.
Alors, on n'y comprend rien, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même des règles incontournables. Alors, ce que Marco dit, c'est qu'il n'a pas réussi à rencontrer l'entreprise de ses rêves. Il n'y a pas de candidat idéal, il y a un candidat pour chaque entreprise, c'est aussi ça qu'il faut rappeler. Alors, comment plaire à un recruteur, comment plaire à la personne qui vous reçoit, ben ça c'est ce qu'on va essayer de détailler aujourd'hui. C'est un cocktail, c'est une alchimie aussi. Hein.
Il faut humaine.
Bien sûr, c'est
donc il y a la partie subjective, la partie aléatoire, il y a les tests de logique.
Oui,
maintenant, c'est vrai.
Ça, oui. Bien sûr, ils existent depuis très longtemps, les tests de logique. Ça a commencé depuis le début des entretiens de recrutement, et donc ils sont très utiles pour vérifier des capacités à raisonner, des capacités logiques, etc. Mais ça ne mesure pas ce qui est justement en jeu dans la rencontre humaine, qui est ce qu'on appelle les soft skills, le comportemental, ce qui est très difficile à déterminer autrement. Donc c'est dans cette rencontre se joue énormément de choses. On peut voir si vous êtes sympathique, on peut voir si vous avez de l'humour. On peut pas voir si vous avez de l'humour dans un test, vous voyez.
Ouais. Les entretiens d'embauche ont-ils tendance globalement à se standardiser de Washington à Shanghai, en passant par Madrid ou pas?
Alors moi, je rencontre pas mal de recruteurs français, de DRH français. Je rencontre assez peu de DRH internationaux, donc je veux pas dire de bêtises, mais dans ce que je lis, hein, parce que je m'appuie plutôt là-dessus, les entretiens ont plutôt tendance à se spécialiser par continent, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a les entretiens à l'anglo-saxonne, c'est toujours très détendu. On a l'impression qu'on discute avec un copain. Donc faites attention, hein, parce que ce ne sont pas des copains. Les entretiens à l'allemande sont encore différents, c'est beaucoup plus sérieux. Alors en Chine, Singapour, etc. Ça, je ne sais pas. je dois vous l'avouer, mais peut-être que les auditeurs vont pouvoir nous renseigner à quoi ressemblent les entretiens qu'ils ont passés.
Oui, vous nous appelez
hein,
là dès maintenant pour réagir au 33 1 84 22 71 71. Comment savoir réellement avec qui on va passer son entretien? Ça aussi, parfois, on le découvre le jour même. Je pense à Moussa qui aimerait passer ses entretiens directement avec un professionnel du recrutement, c'est-à-dire un DRH.
Mais c'est vrai que c'est des
choses... avec une copine du patron.
Ce sont des moments qu'on ne maîtrise pas forcément. Ouais, c'est ça. Enfin, alors, on peut poser la question, avec qui est-ce que je passerai mon entretien? Parce que ça paraît normal. On se prépare pas de la même façon si on a affaire à un DRH, un recruteur ou à un opérationnel. Hein. C'est pas le même type d'entretien, parce que le premier va vérifier plutôt justement la personnalité, et le second va vérifier des compétences techniques, des compétences logiques, enfin des compétences.
Donc on peut voir, il faut poser cette question.
Ah,
pouvez-vous s'il vous plaît
pas.
Me dire avec qui je passerai mon entretien?
Bien sûr, bien
au
sûr.
Au moment où le rendez-vous se prend.
Oui, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne donne pas la réponse d'ailleurs.
Ouais. Préparer son entretien, ça vous insistez, tout le monde insiste énormément là-dessus. Ça veut dire quoi exactement?
C'est comme un sportif, c'est-à-dire que plus on est entraîné, plus on sera naturel. Être entraîné, ça veut dire se renseigner sur l'entreprise, c'est indispensable, c'est une politesse, je le répète, mais c'est vraiment ça. C'est se renseigner sur l'entreprise, c'est très facile aujourd'hui, puisque plein d'infos sont disponibles via Google, on peut aller sur le site de l'entreprise, on peut lire des articles, etc. Après, c'est savoir se présenter soi-même. Connais-toi toi-même, le bon vieux principe, mais ça s'applique ô combien dans l'entretien de recrutement, parce que c'est-à-dire que vous aurez réfléchi à vos projets, à votre projet de carrière, vous aurez réfléchi à vos qualités, à vos défauts, à toutes les questions qui peuvent arriver de la part de l'entreprise.
Oui, mais en même temps, vous le savez, l'entretien ne se passe jamais comme on l'a imaginé,
et
comme on l'a préparé. Oui, c'est tant mieux.
C'est tant mieux, Emmanuel, parce que c'est une rencontre, justement, c'est aussi de l'improvisation. C'est important. Donc, il faut être entraîné de façon à pouvoir assurer, même dans l'impro.
Faut-il préparer des questions aux recruteurs?
Absolument.
Quand on est candidat, a-t-on le droit de poser des questions?
Oui, il faut le faire. C'est indispensable. Par exemple, des questions sur... vous avez lu sur le site internet qu'une telle entreprise est allée rénover un centre Emmaüs avec ses salariés. C'est super intéressant. Pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est dans l'ADN de l'entreprise, c'est votre culture. Il faut poser des questions sur le développement potentiel à l'international. Si vous avez, par exemple, vous maîtrisez très bien le portugais, vous allez commencer à travailler en France, mais après vous aimeriez bien, pourquoi pas, continuer au Portugal. Est-ce que l'entreprise a des possibilités de développement là-bas? Ça peut être, enfin.
En revanche, poser une question, quelle peut être l'évolution future de mon poste, si je l'obtiens, du poste pour lequel je postule, ça peut mettre dans l'embarras le recruteur.
Oui, c'est un petit peu délicat parce que vous vous montrez... Alors, c'est bien de se montrer ambitieux, mais vous pouvez faire cela si vous avez déjà parlé du poste en tant que tel. Hein. Ne brûlons pas les étapes.
Être à l'heure, ça semble une évidence que l'on ose à peine rappeler, et pourtant...
Oui. Ah oui, beaucoup de recruteurs se plaignent de candidats en retard, voire de candidats qui ne préviennent pas qu'ils ne viennent pas. Et ça... côté recruteur, moi j'en rencontre vraiment beaucoup qui sont un peu désespérés par cette génération qui est pas suffisamment dans la politesse.
Donc l'idéal c'est quoi?
C'est d'arriver 5-10 minutes avant.
On fait quoi pendant l'attente?
On peut regarder son portable. Il y a pas de règle.
On va couper son portable après pour l'entretien.
Oui, après bien sûr.
On vérifie si on a son CV. On évite de sortir fumer une cigarette.
Oui, parce que alors ça fait augmenter le rythme cardiaque et c'est pas très bon pour le zen.
Ah, alors justement, puisqu'on parle du zen et du rythme cardiaque, un auditeur Télus qui est à Port-au-Prince en Haïti nous dit: comment gérer le stress au moment de l'entretien? On peut croire que je ne suis pas compétent, mais en fait je perds mes moyens.
Oui, alors petit conseil que donnent toujours les coachs, c'est évidemment de travailler sa respiration, c'est-à-dire de bien respirer par le ventre avant de rentrer dans l'entretien. Bon, ça ok, il faut s'entraîner
au lieu de fumer la cigarette, donc petit exercice de respiration.
Absolument. Et puis ensuite, pendant l'entretien, alors il y a vraiment des techniques d'impro qui sont importantes, qui sont par exemple de se mettre dans l'instant présent. On va croire que je suis un peu une gourou, mais vraiment ça marche ce truc. C'est-à-dire, on est dans l'instant présent, on se dit qu'on va vivre quelque chose qui ne va plus jamais se répéter, alors voilà, on va le vivre bien, on pense positif, etc. Et voilà comment on peut réussir à gérer son stress pendant un entretien. Et puis alors si, un petit conseil, moi c'est ce que les recruteurs me disent aussi, dites-le si vous êtes stressé. Dites-le lui, Et parfois, ça calme tout parce que la personne en face va vous dire oh, « Mais non, attendez, on est vraiment là pour faire connaissance, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » Et ces petits mots qui sont des mots un peu doudous, ben, ça va nous rassurer, donc ça peut marcher.
On a énormément de questions aussi sur l'apparence vestimentaire. Abdoulaye à Dakar, j'ai des questions sur le code vestimentaire en entretien. J'ai un ami qui m'a expliqué que son camarade n'avait pas eu un emploi car il est venu en jean, t-shirt au lieu de porter un costume. Est-ce possible ? Maoula à Abidjan, comment s'habiller pour impressionner le recruteur ? Cher à Dakar, pour moi il est difficile de réussir un entretien d'embauche à cause des codes vestimentaires. Je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter un costume, donc je ne sais pas comment m'habiller pour être présentable en entretien. Que répondre à toutes ces questions?
Ouais. Alors moi j'ai un conseil qui est vraiment très simple et frappé au coin du bon sens, c'est aller sur internet et regarder des vidéos sur l'entreprise si elles existent. Parce qu'il y a plein de codes.
Si elles n'existent pas, on va dans le quartier, on va essayer de se renseigner, on va voir la sortie
à la fin de la journée,
comment sont vêtus les salariés de l'entreprise.
Oui,
tout
alors
simplement.
Après, ça vous garantira pas que les salariés du service où vous postulez seront vraiment habillés comme ceux que vous avez vus à la sortie, mais ça peut vous donner des indices. Ne stressez pas sur la tenue vestimentaire. Encore une fois, évidemment qu'on ne va pas à un entretien en jean et t-shirt, à part dans une start-up, mais vous voyez, ça, c'est juste des conseils de bon sens. On s'habille correctement pour être dans une situation professionnelle. Pardon d'insister, d'être un peu péremptoire, mais voilà, il faut s'habiller.
Bon, dans la banque, on va être en costume, mais il y a aussi des situations professionnelles où une simple chemise bien repassée, bien propre,
absolument,
fera tout à fait l'affaire.
Peut tout à fait faire l'affaire. Et du coup, on oublie votre habit. Le recruteur va oublier votre
pour Cher qui dit que, effectivement, s'acheter un costume, ça coûte cher, même si on le fait faire chez le tailleur, etc.
Oui, alors à ce moment-là, on emprunte. On peut emprunter, essayer d'emprunter à des amis, essayer de si on est là. Après, est-ce que le costume est vraiment indispensable pour le poste auquel il prétend ? C'est pas évident.
Oui, la simplicité peut payer.
Absolument.
Nous sommes en ligne avec un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Memba.
Bonjour Emmanuel et bonjour à vos invités.
Soyez le bienvenu. Vous êtes à Conakry en Guinée. Vous avez une question à poser concernant les entretiens d'embauche.
Oui, effectivement. Ma question est de savoir quelle approche doit-on avoir pour répondre à la question de salaire, surtout pour un débutant qui a sa première opportunité d'emploi.
Ah oui.
Vu qu'en Guinée ici.
Oui.
La plupart des entreprises ou des sociétés passent par le cabinet d'intérim pour recruter les travailleurs.
D'accord, oui. Alors cette question, effectivement, Marie avait une question similaire, elle est dans le sud du Tchad et elle demande que répondre quand on nous demande en entretien ce qu'on veut comme salaire. Cette question me gêne.
Bon, alors là, on touche au tabou, hein, donc c'est compliqué. Donc moi, je vais faire comme si la personne n'avait pas vraiment de tabou. L'argent, ce n'est pas sale. L'argent, ça fait partie de la relation professionnelle. Référez-vous, alors pour être prêt pour répondre à cette question, il va vous falloir donner des grilles de salaire. Ne donnez pas un salaire, vous voyez, je veux gagner 20 000, je veux gagner 20 000. Non, on donne des grilles, des fourchettes de salaire. Et pour ce faire, il existe en France, en tout cas, plein d'études qui sont publiées tous les ans pour tout plein de métiers, donc on se réfère à ça, c'est disponible sur internet, c'est gratuit, ce qui permet de savoir comment on peut se situer sur le marché. En plus, dans ces études, on nous précise le nombre d'années d'ancienneté, donc ce qui est quand même bien. Si vous avez 8 ans d'ancienneté, vous ne demandez pas le même salaire que si vous avez 3 ans, bien sûr.
Mais ça, bon, même si on n'a pas d'études sur internet, on se renseigne hein, dans sa ville. Je pense que même vous savez exactement à combien vous souhaiteriez être embauché, parce que vous avez des idées d'amis qui ont le même type de poste. Hein. La question que vous poser, c'est comment en parler avec le recruteur, non, c'est ça?
Oui, surtout, vous savez, ici, on passe par les cabinets d'intérim. Et ce qui désavantage souvent les travailleurs, quoi. Vous comprenez pas, il y a de ces avantages que vous ne profitez pas si vous êtes recruté par un cabinet d'intérim. Mais si c'est l'entreprise elle-même qui vous recrute, là, ces avantages, vous devrez les avoir.
Oui, bien sûr, parce évidemment, le cabinet d'intérim va prendre une commission.
Alors, évidemment, ces avantages, il faut essayer de les récupérer. Alors, on met en avant des avantages concurrentiels, entre guillemets, qu'on peut avoir par rapport à d'autres candidats. Vous maîtrisez une deuxième langue. Vous avez réalisé un projet dans les temps impartis, ou bien vous avez terminé un travail même avant l'heure. vous avez managé, alors qu'on vous le demandait pas, vous avez réussi à manager une équipe de stagiaires, une équipe de deux personnes. Des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il faut mettre en avant votre différence de salarié, donc tout ce que la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Et ça, ça se monnaie.
Y compris d'ailleurs pour un premier emploi, parce que je crois même, Bam, que vous êtes dans une situation plutôt de premier emploi, c'est bien cela, à Conakry?
Oui, effectivement, je viens de décrocher mon premier emploi, mais quand j'ai discuté avec le cabinet pour le salaire, il me dit je ne dois pas vous demander beaucoup de salaire, vu que je n'ai pas d'expérience à ce moment.
Oui.
Deuxièmement, l'entreprise est en phase d'implantation.
Oui.
Donc j'ai accepté au moins pour profiter de cette expérience avec l'entreprise.
Après, c'est à vous de voir effectivement si vous pouvez accepter ce type de salaire, parce que ça vous permet au moins d'assurer ce dont vous avez besoin pour vivre. Si vous estimez que c'est vraiment trop bas, moi je ne peux que vous conseiller d'aller voir ailleurs. Mais sinon, ça peut être effectivement une première expérience que vous mettez dans votre CV et qui va vous permettre dans un deuxième temps de postuler dans une boîte et demander le salaire dont vous rêvez.
Est-ce que par exemple on peut aborder la question, bon, le salaire que vous me proposez, je le trouve un peu bas. Je sais bien que votre entreprise est en phase d'implantation, donc je comprends. Peut-on envisager une révision de mon salaire si vous êtes satisfait de mes services? Est-ce que c'est une discussion qu'on pourra avoir ensuite? Oui, envisager.
Emmanuel, vous avez passé plein d'entretiens, en fait. Vous avez toutes les techniques, vous les maîtrisez. C'est tout à fait ça. C'est de projeter le recruteur dans le futur, de façon, dans le futur où vous serez, hein, bien sûr, de façon à lui donner envie de vous faire une promesse de, ah oui, on pourra arriver votre salaire une fois que vous aurez réalisé ceci, ceci, cela. Voir, alors ça peut être aussi le cas dans certaines start-up, dans des entreprises qui se lancent, on peut aussi demander une participation au capital. On peut demander des actions, on peut demander d'être rémunéré en actions de façon à être rémunéré sur l'investissement personnel et professionnel qu'on va avoir dans cette entreprise.
Memba, est-ce que vous êtes satisfait des réponses que nous vous apportons?
Oh, vraiment, je suis vraiment satisfait.
Bon, très bonne journée à Conakry. On croise les doigts pour tous vos entretiens d'embauche et pour décrocher enfin un premier emploi. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Sylvia Di Pasquale, il y a de plus en plus aujourd'hui, c'est vraiment une tendance lourde d'entretiens d'embauche, d'abord avec la mobilité sur tous les continents, d'entretiens à distance, alors via Skype ou d'autres moyens.
Oui. En vidéo différée, par exemple.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'entretien en vidéo différée, c'est-à-dire?
Vous recevez un lien par mail, vous recevez un lien, vous vous connectez à un serveur qui vous demande de vous placer devant votre caméra, devant votre PC, devant une caméra. Et là, donc vous ouvrez ce lien, et là, des questions vous êtes posées. Donc d'abord, il y a une question pour s'entraîner. Voilà, on s'entraîne.
Qui arrive sur l'écran. Donc,
voilà, qui arrive sur l'écran.
Personne ne parle.
Il n'y a pas de recruteur de l'autre côté. En fait, le recruteur, il a déjà préparé ses questions. Et donc, vous pouvez être amené à répondre à des questions. Quel est votre parcours professionnel? Quels sont vos défauts, vos principaux défauts? Quelles sont vos qualités? Et vous êtes tout seul devant la caméra.
Voilà, pas facile.
Question qui défile. Et non, c'est bien le problème, c'est pas facile.
Alors, ça, c'est un premier tri en général. C'est ça. Le recruteur va visionner ensuite toutes les vidéos des candidats.
Les recruteurs promettent la main sur le cœur que ça ne fait que remplacer l'entretien téléphonique. Bon, on peut quand même en douter.
Alors, quelques conseils, ne serait-ce que quand on est tout seul devant son ordinateur ou avec quelqu'un en live sur Skype.
Alors, quelques conseils. Donc, d'abord, faites attention à l'éclairage. Il faut qu'on puisse bien voir votre visage. Donc, pas la lampe derrière vous, mais devant vous.
Idem pour la fenêtre, attention.
La fenêtre aussi, parce que sinon, vous aurez des ombres portées.
Donc, on n'est pas dos à la fenêtre, mais face à la fenêtre.
Absolument, sinon on est dans l'ombre. Autre conseil, faites attention au décor qui derrière vous, voilà, il y a des bouteilles de vin, c'est pas très, voilà, faut pas. Il peut aussi y avoir, faites attention à être dans une salle bien isolée, ça paraît évident comme ça, mais si votre enfant déboule en demandant maman j'ai faim, bon, c'est pas très pro non plus. Voilà, ce genre de préparation, c'est des petits détails auxquels il faut quand même faire attention. Et puis être habillé aussi, être pareil, habillé avec un costume professionnel, très sérieux, très propre, coiffé.
Des pieds à la tête, y compris si on ne voit pas le bas.
Oui, parce que ça vous met dans un état psychologique de on est au bureau quoi. On est.
Question technique, il faut fixer quoi quand on est en entretien vidéo face à son ordinateur? On fixe la petite caméra qui est au-dessus de l'écran. On fixe l'écran lui-même.
Alors vous fixez la caméra, sauf que vous vous dites bien que la caméra c'est. Alors il faut vraiment faire un exercice mental. C'est vraiment une recommandation. La caméra c'est comme une personne. Donc en fait vous n'êtes pas obligé de quand vous parlez vous regardez pas la personne tout le temps quoi. C'est un peu peu gênant sinon.
Donc on peut regarder un peu au-delà de l'écran.
Bon. Vous avez le droit de regarder au-delà et même à droite à gauche.
Sylvia Di Pasquale, vous restez avec nous. Bien sûr, on poursuit tous ces conseils. Nous entendrons juste après le flash les conseils aussi d'un patron de PME à Abidjan. N'attendez pas la fin de l'émission pour nous appeler. 33 1 84 22 71 71. Restez avec nous. Retour dans 3 minutes après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, comment se préparer et réussir ces entretiens d'embauche? Énormément de conseils avec vous, Sylvia Di Pasquale. Vous êtes rédactrice en chef de Quel Job.com, un des principaux sites de recherche d'emploi en France, sur lequel on trouve de nombreux conseils qui peuvent servir partout dans le monde. Vous nous appelez, bien sûr, vos témoignages, vos questions au 33 1 84 22 71 71. Il n'y a pas de questions stupides pour préparer ces entretiens d'embauche. Je lis quelques messages postés sur la page Facebook. Diane, qui est à Dakar, nous dit au Sénégal, les jeunes diplômés rencontrent beaucoup de problèmes lors des entretiens d'embauche. Je n'ai pas toujours de travail après plusieurs entretiens. Pourtant, je réponds à toutes les questions. Je pense bien faire. Et je ne crois pas que la manière dont on s'habille ou le fait d'avoir de l'expérience aide vraiment. Ce qu'il faut, c'est un bon carnet d'adresses. Alors ça, on a beaucoup de témoignages de ce type. Mamadou aussi nous dit, en Afrique, pour obtenir un emploi, il faut avoir le bras long, connaître une personne qui va t'aider, sinon c'est impossible. Nous allons poser la question à un patron de PME à Abidjan. Bonjour Fahan Bamba.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes PDG d'Afrique Émergence, c'est un institut de microfinance. Vous avez aussi travaillé d'ailleurs dans la finance à Londres avant de rentrer en Côte d'Ivoire pour monter votre entreprise. Que répondez-vous à ces messages que je viens de lire?
Je voudrais dire que on ne peut pas nier qu'il puisse exister des situations de ce type en Afrique et comme partout d'ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Mais il ne faudrait pas généraliser ces situations. Il faut savoir que lorsqu'on veut recruter un employé, c'est bien pour un poste précis, dans un environnement précis, et que pour de ce fait-là, la préoccupation des chefs d'entreprise, c'est d'avoir la personne qui correspond le plus possible au profil de ce poste-là, pour des tâches qu'il souhaiterait confier à cette personne. Et donc, si vous avez ce profil, si vous avez naturellement, vous êtes en compétition avec plusieurs personnes, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas été recruté que forcément, celui ou celle qui a été recruté a forcément le bras long, comme dit un des auditeurs.
Oui.
Donc, c'est une compétition, malheureusement, aujourd'hui, avec le niveau de formation et de formation universitaire et même d'éducation, de formation des jeunes africains, la concurrence devient de plus en plus rude. Donc, pour un poste donné, le recruteur se retrouve avec des dizaines, voire des centaines de dossiers ou de candidatures. C'est tout à fait évident qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et donc, forcément des frustrations et des interprétations de ce qui se passe. Mais en réalité, aucun chef d'entreprise ne peut se permettre de recruter uniquement la base des simples connaissances juste pour faire plaisir à celui ou celle qui le recrute. C'est d'abord pour répondre aux exigences du poste qu'il veut pouvoir. Voilà.
Oui, sous-entendu, le business est trop dur. Il faut avant tout avoir des collaborateurs compétents.
Exactement. Nous sommes dans un environnement de plus en plus compétitif. Nous sommes dans un environnement où le choix des hommes, la qualification et la qualité des hommes est telle que il faut s'entourer des meilleurs éléments possibles. Et donc, aucun chef d'entreprise, a priori, ne peut passer son temps à ne recruter que des personnes qu'il connaît ou des personnes...
Alors, vous faites bien, Fahan Bamba, de dire que c'est partout dans le monde. Hein, parce que Sylvia Di Pasquale, en France, les études montrent bien que le bouche à oreille est encore extrêmement puissant pour trouver un emploi.
C'est vrai. Ouais, ça fait partie des créneaux qui marchent bien. Mais depuis qu'on a industrialisé quand même la rencontre, hein, notamment au travers des offres d'emploi et de tous ces sites internet qui existent, c'est quand même un média qui a tendance à faire émerger ce marché caché, ce fameux marché caché de l'emploi qui nous ennuie tous tellement.
Une question précise, Fahan Bamba. Je sais que vous recrutez avec des processus bien standardisés, bien précis, avec plusieurs types d'entretiens. Pour arriver sur le premier tour des entretiens, le premier barrage, est-ce qu'une personne recommandée va avoir plus de chances d'être sur ce premier tour?
Alors ça, je pense qu'il faut être honnête. c'est clair que aujourd'hui, si quelqu'un vous recommande son frère, son neveu, etc., vraiment le service qu'on pourrait lui rendre, c'est de faciliter, de permettre à cette personne d'au moins participer au processus de recrutement. C'est la seule faveur possible qu'un chef d'entreprise pourrait donner à quelqu'un. Au-delà de ça, lorsque cette personne se retrouve dans la compétition, ben elle se battra à armes égales avec eux et celles qui sont dans la compétition avec elle. Donc je pense que c'est ça que tous les candidats devront avoir dans la tête. Ouais. C'est vrai, vous pouvez connaître quelqu'un, vous pouvez connaître même le dirigeant de l'entreprise. Elle peut vous informer qu'il y a bientôt un recrutement ou tel jour un recrutement. Donc, vous permettre d'avoir donc de moins la chance de participer.
Bien sûr.
Le nombre de candidatures est tel que même la sélection de ceux qui vont participer est souvent compliquée. Et donc, déjà, je pense que c'est...
Voilà. Et ensuite, il faut se battre à parts égales. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à un auditeur qui veut poser une question, qui n'est pas à Abidjan, mais je pense que sa question, vous allez pouvoir y répondre, en bamba. Bonjour, Junior.
Bonjour Emmanuel et à vos invités.
Junior, vous êtes à Kinshasa, vous avez une question précise à nous poser.
Ouais. Bon, je viens de décrocher mon diplôme en licence en économie à l'université de Kinshasa et j'ai des questions. Je veux savoir comment passer un entretien d'embauche en groupe.
Un entretien d'embauche en groupe, c'est-à-dire plusieurs candidats face à un recruteur.
Oui, c'est ça. Non, ou soit à plusieurs recruteurs aussi.
Plusieurs candidats et face à plusieurs recruteurs.
Oui, c'est ça.
Oui.
Et ma deuxième question est comment se démarquer des autres candidats.
Ah ben oui.
Qui peuvent aussi être des meilleurs candidats.
Ah ben oui, bien sûr. Fahan Bamba, à Abidjan, votre PME recrute de cette façon-là, avec des entretiens de groupe.
Exactement, ça fait partie de notre processus de recrutement où nous regroupons les candidats généralement en groupe de 5-6 face à un recruteur, face à un de nos cadres. Et donc l'objectif ici, c'est de susciter le débat et de laisser chaque candidat démontrer ses propres capacités, démontrer ses connaissances et surtout sa capacité à pouvoir à pouvoir émerger dans une situation donnée.
Alors, qu'est-ce que vous posez comme question au groupe, par exemple?
En général, généralement, ce sont des questions d'ordre général. On peut peut-être poser une question sur la situation, l'actualité. On peut parler, par exemple, la chute du cours du pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez?
Donc,
c'est un débat.
Oui, et quoi d'autre? Non, parce que là, si les auditeurs veulent postuler à votre entreprise, ils vont connaître toutes les questions à l'avance. Et quoi d'autre comme question?
Par exemple, nous sommes dans le secteur de la microfinance. On peut vous dire, qu'est-ce que vous savez du secteur de la microfinance? Pensez-vous que le secteur de la microfinance, par exemple, contribue effectivement à la lutte contre la pauvreté? Voilà une question d'ordre général qui permet, selon les réponses des uns et des autres, de voir un peu près l'ouverture d'esprit de la personne, son intérêt pour le secteur d'activité et pour l'entreprise, mais également aussi sa capacité d'écoute, parce que vous êtes 5 personnes ou 6 personnes, il y a certains qui n'ont pas la capacité d'écouter les autres.
Donc en fait vous organisez un débat radio, quoi, si j'ai bien compris.
Je ne sais pas si c'est comme ça, mais voilà, et tous ces éléments là nous en tenons compte par rapport donc au profil du poste que nous voulons pourvoir, parce que si nous voulons recruter par exemple un comptable ou si nous voulons recruter un agent de crédit, c'est quelqu'un qui va vers les gens, quelqu'un qui est capable de parler clairement, expliquer dans des mots simples les produits et services de l'entreprise. Donc nous serons intéressés par la personne qui est capable d'expliquer clairement ce qu'il a à dire. Et donc ces éléments-là nous permettent déjà de faire des tris. Et à la fin, nous retenons généralement 2 ou 3 par groupe. Et ce sont ces 4 ou 3 personnes-là qui vont faire l'objet d'entretiens individuels. Et là, à ce niveau, on peut aller un peu plus loin, par exemple, en essayant de connaître véritablement le candidat, en essayant d'aller en profondeur dans ses expériences. Et quand je parle d'expérience, c'est pas forcément des expériences professionnelles.
Alors attendez, avant qu'on parle des expériences, je voudrais qu'on aille bien au fond de votre réponse sur les entretiens de groupe pour répondre à Junior, et je pense qu'on a d'autres questions aussi sur ce sujet-là. Sylvia Di Pasquale, vous souhaitez ajouter quelque chose sur les entretiens de groupe?
Oui, sur les entretiens de groupe, ça me fait penser à ce que Monsieur Bamba raconte, ça me fait penser à ce qui est vraiment très, très à la mode en ce moment en France, ce sont les serious games. C'est-à-dire qu'on réunit des candidats autour de, un peu ce que vous disiez, Monsieur Bamba, on leur pose des questions, mais autour d'un jeu. Et en fait,
tester les réactions,
absolument,
en fait,
hein. Et les personnalités, et comment on se positionne plutôt en leader, plutôt en animateur, etc. Et c'est très révélateur. Et je pense qu'il faut pas que les candidats aient peur de ce genre d'épreuve, parce qu'au contraire, ça révèle.
Attendez, pas avoir peur. Moi, je vous écoute tous les deux, Florent Bamba et Sylvia Di Pasquale. Je comprends qu'il y a aucun moyen de s'y préparer. En fait, c'est terrible.
Bah, c'est compliqué. Enfin, il faut être soi, il faut être bon, il faut être pro.
Florent Bamba, qu'est-ce qu'on peut répondre à Junior? Comment se préparer pour se démarquer dans ces groupes?
Moi, je pense que la première préparation, c'est de venir sereinement, de façon zen et de participer à ces processus. En réalité, on
d'être zen.
Ne sait pas comment se préparer. Oui, parce qu'en fait, c'est la personnalité du candidat qui est recherché. Et votre personnalité, vous ne pouvez pas vous préparer à votre personnalité. Ouais. Votre personnalité, elle est déjà construite.
Oui, mais très honnêtement, enfin, bon, y a des personnalités qui sont écrasantes. C'est pas forcément les meilleurs candidats sur un poste.
Oui, mais justement, nous voulons le savoir avant qu'ils ne rentrent dans notre entreprise.
Et on les prendra pas.
Ce poste précis, nous ne voulons pas d'une personnalité écrasante. Ou bien, ce poste précis, nous voulons une personnalité qui écrase. Donc en fonction des postes. Parce que ce que chaque candidat doit comprendre, c'est que vous êtes candidat pour un poste précis et dans une entreprise précise. Mmh. Et donc, pour ce poste précis, c'est pas toujours évident que vous ayez votre qualité. Ce qui pourrait être une qualité ailleurs, correspondre aux qualités recherchées dans l'entreprise dans laquelle vous êtes d'entretien.
Alors, Fan Bamba, lors des entretiens individuels, ensuite, que constatez-vous? Quelles sont les erreurs que vous repérez le plus fréquemment?
Alors, il y a une erreur qui est très constante, surtout chez les jeunes diplômés, chez certains jeunes diplômés, c'est de penser qu'ils peuvent susciter de la pitié ou de la compassion pour pouvoir obtenir le poste vis-à-vis du obtenir le poste. J'ai souvent le cas de candidats qui, dès le début de l'entretien, vous informent que ça fait 5 ans, 6 ans qu'ils sont diplômés et qu'ils n'arrivent pas à avoir un emploi, et que de ce fait-là, il est dans une posture où cet emploi, il faut l'avoir tout de suite.
Oui, et que leurs parents sont morts et qu'ils ont tous leurs frères et sœurs à nourrir.
Ils sont orphelins. En fait, ils cherchent à susciter donc cette pitié ou cette compassion. Et moi, je pense que c'est une erreur. Ce que le recruteur recherche, c'est d'abord ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable d'apporter. Deuxième chose, c'est de comprendre que il faut plutôt, je crois que votre
Sylvia Di Pasquale.
Voilà, elle a dit tout à l'heure, c'est susciter la sympathie. C'est un jeu de séduction. Oui. Mais susciter la sympathie, cela ne veut pas dire susciter la pitié ou créer un lien affectif avec la personne. Mm-hmm. Parce qu'il y a souvent certains qui jouent, et ça on le constate souvent en Afrique, qui essaient de jouer sur peut-être vos relations, parce que vous auriez le même patronyme ou vous viendrez de la même région. Ils pensent que le fait que vous veniez de la même région, parce que vous avez des noms patronymiques qui viennent de la même région, cela lui donne un avantage précis. Et donc il essaie de jouer sur tout ça. Et je pense que ça, c'est aussi des erreurs. Parce que, surtout dans les PME, Lorsque le recrutement coûte cher et les erreurs coûtent tellement cher qu'on veut les bonnes personnes à la bonne place. Et donc tous les autres expertises que le candidat peut chercher à mettre sur la table ne font que généralement agacer le recruteur plutôt que de créer la sympathie recherchée.
C'est ça. Donc en fait, vous avez envie de vous dire, quand vous avez par exemple une candidate, cette fille a l'air vraiment sympa, je la sens bien dans l'équipe, elle va apporter quelque chose à la boîte, quoi.
Exactement. Et là, ce que j'ai dit, c'est il y a trois éléments clés qu'il faut. Et là, par contre, on peut se préparer pour ça. Il y a trois éléments clés que je pense que pour les jeunes, il faut chercher à démontrer pendant un entretien. La première chose, c'est son dynamisme. Mmh. Parce que quand on est jeune, on est dynamique. Ouais. Il faut le démontrer. Et pour pas juste le dire que je suis dynamique, il faut le montrer par des activités extrascolaires, par des activités associatives, qu'on a fait preuve de dynamisme par le passé ou dans l'entreprise où on est passé avant. Ensuite, le sens de l'initiative. Parce que dans les clubs, on n'a pas le temps. Donc, on veut des personnes qui sont capables de prendre l'initiative, c'est-à-dire à qui on ne dicte pas tout.
Oui. Et là, alors, aussi, dynamisme, il faut initiative, oui.
Et puis, le dernier élément, démontrer sa capacité d'adaptation. Voilà. Parce que là aussi, ce sont des équipes, ce sont des équipes souvent jeunes. Ce n'est pas aux autres de s'adapter à vous, parce que vous allez rentrer dans une équipe où tout bouge, c'est vous qui devez vous adapter à l'équipe.
Ouais. Et donc, Sylvia dans le studio, complètement d'accord, hein, spécialiste du recrutement.
Ah oui, sur l'optimisme aussi, c'est quelque chose, c'est ce que vous avez dit sur le dynamisme. Ouais, l'optimisme, qu'est-ce qu'on aime bien recruter des gens optimistes?
Bah, surtout en France, hein. Ouais. Surtout en France où ça se passe pas très bien.
C'est vraiment ce que les recruteurs disent, hein, carrément.
Alors,
optimiste.
Restez en ligne avec nous, Farhan Bamba. Justement, vous recrutez, je sais, pas mal de bacheliers à Bac plus 2 pour votre entreprise de microfinance, sur des postes d'ailleurs assez différents. Nous sommes en ligne avec Aminata qui nous appelle de Nice en région, en France.
Oui.
Bonjour Aminata, nous vous écoutons.
Bonjour Emmanuel. En fait, moi, les recruteurs me posent une question tout le temps embarrassante.
Oui.
Parce qu'ils me demandent quelles sont mes compétences. Et moi, au cours de ma formation, j'ai juste fait un stage. Et du coup, ils préfèrent prendre quelqu'un qui a de l'expérience par rapport à moi. Et je sais pas quoi répondre, quoi, comment les convaincre de dire que je peux apporter quelque chose, en fait.
Alors, vous avez 25 ans, donc vous avez un master 2 en droit économique. Hein. Vous avez plutôt un bon CV. Et effectivement, oui, 25 ans, et pour cause, vous n'avez pas une longue expérience professionnelle. Vous avez un stage.
Oui, j'ai juste un stage.
Ouais, ouais. Alors, sur le continent africain, ça, on en a des kyriels aussi d'auditeurs, de jeunes qui nous écrivent, qui nous disent, mais comment faire? Je lis aussi, par exemple, Lorient qui est à Brazzaville. Comment convaincre un recruteur lorsque son expérience professionnelle n'est basée que sur des stages de formation et de courte durée? Que pouvez-vous répondre, Farhan Bamba, à cette question partagée par de très nombreux auditeurs?
Ce que je peux répondre, c'est de dire que j'ai cité d'ailleurs trois éléments. Le dynamisme, le sens de l'initiative et la capacité d'adaptation. Ces trois éléments, on peut le démontrer ailleurs que dans une entreprise. Donc ça veut dire que ce sont des jeunes à qui je recommande vivement de s'intéresser, si, même si vous n'avez pas de stage, vous n'avez pas eu la chance de faire beaucoup de stages, mais au moment où vous êtes déjà sur à l'université ou après l'université, il faut vous impliquer dans des associations, dans des activités, même des activités familiales. Il faut vous impliquer de sorte que vous ayez des éléments concrets que vous pouvez présenter qui démontrent les trois valeurs que les recruteurs attendent de vous.
Ouais. On va les redonner. Dynamisme, initiative, adaptation. J'ai monté un club de foot dans mon quartier.
Exactement.
Voilà, ça se valorise, hein, même si ça n'est pas une expérience professionnelle.
On n'a pas besoin forcément d'avoir un stage dans une grande entreprise ou dans une entreprise pour avoir pour démontrer cette qualité-là. Oui. Et lorsque vous présentez ces éléments-là, même dit simplement que à l'occasion des obsèques de mon grand-père, il y a eu telle situation qui s'est posée, c'est moi qui ai pris telle initiative, j'ai fait ceci, ça a évité par exemple des problèmes dans la famille, voilà ce que j'ai fait, voilà. Et ça, c'est valorisé par le recruteur.
Farhan Bamba, restez en ligne avec nous. On a énormément d'auditeurs qui souhaitent participer, vous poser des questions à vous et bien sûr à Sylvia Di Pasquale. Nous sommes en ligne avec John qui est à Abidjan. Bonjour John.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez 32 ans, vous travaillez dans le domaine pétrolier.
Oui.
Nous vous écoutons.
Bon, j'appelle ce matin pour bénéficier de vos conseils, parce que c'est une aubaine d'avoir cette émission. Alors, moi, j'ai 2 ans et demi d'expérience dans le secteur pétrolier en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? J'ai travaillé chez des concurrents pendant 2 ans et demi. Et le bilan de mes 5 dernières années, c'est 6 entreprises différentes que j'ai faites.
6 entreprises sur 5 ans? Ouais, c'est beaucoup, hein?
Sur 5 ans.
Ouais.
Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas ma faute. Souvent, c'est aussi la qualité de l'emploi, les profils de carrière à l'intérieur des entreprises. C'est ce qui fait qu'on est obligé d'avoir ce type de mouvement. Mais aujourd'hui, j'ai un entretien bientôt, le mois de février, mais je suis un concurrent encore.
Ouais.
Et là, c'est pour un poste qui est plus intéressant.
Ouais.
Et qui correspond bien à mon projet de carrière professionnelle.
Ouais.
Alors j'aimerais tourner cette situation à mon avantage.
Sylvia Di Pasquale. Oui, 6 entreprises en 5 ans, on se dit, mais il s'est fait virer à chaque fois ou
quoi? Oui, ou alors c'est un mercenaire, il cherche le meilleur salaire. Hein. Je sais pas, John, c'est ce que les recruteurs doivent penser quand ils vous voient, mais en même temps, vous dites, c'est pas de ma faute. Hein, donc, votre enjeu, c'est de réussir à démontrer aux recruteurs que vous cherchez la stabilité. C'est bien ça, hein? Vous cherchez un poste stable, vous cherchez un poste intéressant. Donc, vous connaissez le poste pour lequel vous allez postuler? Vous avez des détails sur le poste?
Oui, j'ai des détails sur le poste.
Voilà, alors on va s'appuyer là-dessus. On va s'appuyer sur les éléments de l'annonce et vous allez travailler chacun des éléments de façon à pouvoir prouver aux recruteurs que vous allez développer voilà chacune des compétences qu'on vous demande et que vous allez les mettre au service de son entreprise et que du coup vous serez donnant entre l'entreprise et vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va le rassurer le recruteur, c'est que vous ayez envie de capitaliser sur ce que vous allez apporter chez eux et ce que vous, eux vont pouvoir vous apporter.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, John. Merci pour votre réponse, Sylvia. On prend un autre auditeur. Abdou nous appelle de Libreville, du Gabon. Bonjour, Abdou.
Bonjour, Emmanuel.
Soyez le bienvenu. On vous écoute.
Merci. J'ai trois questions à poser à propos du thème de ce midi. La première, c'est de savoir comment devons-nous être habillés pour aller à un entretien d'embauche. La deuxième, c'est celle qui porte par rapport au salaire, lorsqu'on nous demande quel type de salaire voulez-vous recevoir dans notre entreprise. Et la troisième, lorsqu'on nous demande pourquoi avons-nous quitté nos précédents travails. Comment répondre à ces questions?
Oui, alors on va commencer par la dernière question parce qu'on a déjà répondu aux deux autres questions sur la présentation vestimentaire et puis le salaire. Je vous invite à écouter la première partie de l'émission en replay sur notre application, sur les smartphones et sur Internet. C'est difficile de parler de son expérience précédente, notamment si elle n'est pas bonne.
Oui.
Si ça s'est mal passé.
Oui, mais alors la règle absolue, ne jamais dire du mal de son entreprise ou de son employeur. Si vous avez des raisons très négatives d'avoir quitté votre employeur parce que ça s'est mal passé, ne le dites pas. Ça ne se dit pas, voilà, parce que
ne même pas le laisser entendre.
Non, ne même pas le laisser entendre, parce que c'est une question de loyauté envers l'employeur précédent. C'est-à-dire que l'employeur que vous rencontrez aujourd'hui n'a pas du tout envie que vous fassiez la même chose dans 5 ans quand vous allez le quitter. Voyez ? Donc, comment parler de son expérience précédente? Si ça s'est mal passé, donc voilà mon conseil. Et si ça s'est bien passé, ben écoutez, j'imagine Abdou que la question se pose même pas. Si ça s'est bien passé, ben on confère tout ce qu'on vient de dire. Hein, c'est-à-dire qu'on développe ses expériences, on développe sa différence de salarié, tout ce qui peut vous donner une valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Ça, allez-y. Et puis sur vos qualités, sur vos défauts aussi. On en a pas parlé, il y a plus de questions sur les défauts. Tiens. Donc tout ça...
Ça peut être une question ça d'un recruteur. Quels sont vos défauts ça, c'est la petite question piège que les recruteurs aiment bien, non?
Alors la question qui commence, enfin évidemment sur les défauts, donc faut s'y être préparé. Évidemment, on prend des qualités qui sont aussi des défauts. Et l'autre question, c'est quels sont les défauts que vous n'avez pas?
Bon alors attendez, on prend des qualités qui sont aussi des défauts. Vous pouvez me réexpliquer ça?
Donc en fait, ce sont des défauts comme par exemple l'impatience.
Ouais, on dit pas je suis menteur.
Ouais, non, ça vaut mieux pas. Mais l'impatience, voilà, je suis plutôt impatient. Et en fait, on le transforme en qualité.
Oui, on dit, ce gars-là va être dynamique, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et je suis impatient, c'est-à-dire que je vais demander à mes collaborateurs de rendre les projets à temps. Donc, ouais, vous positivez le truc, quoi. Et la question qui fait des nœuds au cerveau, c'est quels sont les défauts que vous n'avez pas? Ça, faut s'y préparer, parce que certains recruteurs qui ont regardé des vidéos qu'on diffuse sur nos sites commencent à reprendre cette question, parce que c'est une question qu'on a posée à des recruteurs et à des DRH. Un peu pour venger les candidats, vous voyez, ouais. sur quel job et sur cadre emploi. Donc, quels sont les défauts que vous n'avez pas? Eh ben, faites le test. Systématiquement, les gens donnent le défaut qu'ils ont, en fait.
J'espère, Abdou, vous avez pris des notes. Est-ce que vous êtes satisfait des réponses qu'on vous apporte? Souhaitez-vous d'autres précisions?
Oui, j'aimerais avoir d'autres précisions, parce que lorsque on vante les mérites de l'entreprise,
ouais.
ça va être un peu paradoxal de savoir ouais. que ce jeune homme qui vante les mérites de son entreprise cherche à postuler ailleurs.
Pourquoi ça vous êtes parti si c'était si bien?
Oui. Parce que vous aviez besoin d'élargir votre horizon, parce que l'entreprise qui est formidable, imaginons qu'Emmanuel veuille quitter RFI. RFI c'est formidable, mais malgré tout, elle peut avoir envie d'aller travailler sur une radio pour se spécialiser sur la santé, qui est son dada, voilà.
Et donc, je vais pas prendre la place de Claire Hédon, priorité santé juste avant nous.
Donc ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas dénier les qualités de l'entreprise précédente, c'est s'inscrire dans un projet professionnel qui vous est propre. Et qui n'est plus le projet que peut vous offrir l'entreprise précédente.
Est-ce que vous y retrouvez avec ces éléments de réponse, Abdou?
Oui, je suis très satisfait des éléments de réponse.
Merci beaucoup de nous avoir appelés. Fahan Bamba, vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui, merci.
Patron à Abidjan. Globalement, le recrutement, vous en parlez avec d'autres patrons de PME, vous partagez vos déconvenues, ces histoires de candidats qui ne se sont pas suffisamment préparés ou pas forcément?
Oui, bon, nous en discutons souvent de façon à bâton rompu. Souvent, c'est plutôt amusant de raconter, nous racontons des anecdotes. entre nous, et parce que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes réalités, au même type de candidats, parce que les candidats font le tour pratiquement des entreprises. Nous en discutons, nous échangeons là-dessus, et le constat est que généralement, ce sont les mêmes erreurs qui sont commises dans tous les entretiens
par des secteurs différents. Vous savez, nos auditeurs ont souvent l'impression, moi-même d'ailleurs comprise, que tout ce que vous avez donné comme pièges qui peuvent être tendus aux candidats, que les recruteurs finalement cherchent en permanence à piéger les candidats. Que répondriez-vous
Je pense que c'est une erreur de penser que le recruteur cherche à piéger le candidat. Par exemple, tout à l'heure, c'est le recruteur précédent qui demandait qu'est-ce qu'il pouvait dire au sujet de son entreprise précédente. Mais en fait, lorsque un recruteur vous pose une telle question, et je pense que votre invité l'a dit, c'est de voir votre esprit de loyauté, parce que votre capacité à garder pour vous ce que vous aurez obtenu comme information dans cette entreprise. Et si vous venez dire que oui, le DAP, il est méchant, il fait ceci, etc., ça démontre que, bien sûr, lorsque vous nous quitterez demain, il n'y a pas de raison que vous ne dites pas les mêmes choses de nous. Donc, ça peut paraître un piège, mais en fait, c'est toujours les traits des personnalités que...
Il faut se mettre à la place des patrons et des recruteurs, c'est ce que vous êtes, effectivement. Merci pour ces conseils, Fahan Bamba. Vous présidez, vous dirigez l'entreprise de microfinance Afrique Émergence à Abidjan. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Sylvia Di Pasquale, on arrive au terme de cette émission. Un conseil d'Ibrahima de Dakar qui nous dit personnellement, moi je conseillerais d'être original pour se démarquer, je préconise l'humour. Ouais, facile à faire, mais quand on n'a pas cette qualité-là, naturellement, ça n'est pas toujours simple. Lémiane aussi, qui est à Besançon, nous dit pendant l'entretien, est-ce qu'on peut reprendre le texte de notre lettre de motivation?
Ah oui, si vous ne le récitez pas, on est bien d'accord, mais reprendre les arguments, oui, bien sûr.
Voilà. Et puis Martin nous dit, lui, il était au Tchad, j'ai du mal à regarder mon recruteur en face, comment faire? Bon, s'entraîner en famille, avec des amis.
Ouais. Hein. Ça va venir.
Allez, gardez courage. Merci à vous tous pour vos questions pertinentes, intelligentes. Sylvia Di Pasquale, vous êtes rédactrice en chef de queljob.com. Nombreux articles à retrouver sur votre site. Merci à toute l'équipe. Et bien sûr, merci à toutes vos questions. On se retrouve demain pour 7 milliards de voisins.